Plus de 60 morts et 180 blessés dans un attentat kamikaze à Kaboul, en plein mariage. L'attentat le plus meurtrier contre des civils depuis le début de l'année, il a été revendiqué par le groupe État islamique. Des dizaines de milliers de manifestants à Hong Kong pour sa 10e semaine de contestation, le Front civique des droits de l'homme a réussi sa nouvelle démonstration de force contre l'exécutif local jugé trop favorable à Pékin. Dans ce journal également, des médecins qui s'alarment des pénuries de médicaments et appellent à la relocalisation de la production. La FAGE, premier syndicat étudiant qui juge trop élevée la hausse du coût de la rentrée universitaire, estimée à 2%. Des Bleus qui se font plaisir en rugby et redonnent espoir à leurs supporters en marquant 5 essais aux Écossais. Et puis la météo, 12 départements de l'Est en vigilance orange aux orages. Mais la grisaille et la pluie passeront aussi cet après-midi par l'Aquitaine et le Limousin. Pour commencer cet hommage peu commun que va rendre l'Islande ce dimanche, l'hommage à un glacier disparu ou considéré comme tel, car la glace dont on ne trouve quasiment plus trace y a fondu plus vite qu'elle ne s'est accumulée. Scientifiques et chercheurs s'apprêtent à dévoiler une plaque commémorative sur le site de ce glacier, Loggjöfull, prononcé Oklokuk, auquel a été enlevé justement son statut de glacier depuis quelques années. C'est une première en Islande. Jérémy Richard à Reykjavik.
C'est le premier monument dans le monde érigé en l'honneur d'un glacier disparu à cause des changements climatiques. Dominique Boyer, professeur d'anthropologie à l'université Rice aux États-Unis, à l'initiative du projet.
C'est important de trouver des moyens de se connecter au monde actuel et de reconnaître que le changement climatique n'est pas quelque chose à venir, mais qui a déjà commencé.
Ce monument atteste que nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait, indiquant son cœur le texte écrit en lettres d'or en islandais et en anglais. Avant de conclure, vous seul savez si nous l'avons fait. Simone Howe est également professeur d'anthropologie à l'université Rice.
C'est un appel au futur, de même qu'un appel à l'action, et je pense que l'utilisation du pronom « vous », la deuxième personne du pluriel, est un outil rhétorique très puissant, car il fait appel au lecteur et l'engage à agir.
Comme Oak, les quelques 400 autres massifs glaciaires islandais devraient tous inexorablement subir le même sort pour le glaciologue Otur Sigurdsson.
L'inertie du système climatique est telle que, même si nous stoppions dès maintenant les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, cela continuerait de se réchauffer pendant près de 2 siècles avant d'atteindre son point d'équilibre.
Loggjökull a perdu en un peu plus d'un siècle la quasi-totalité des 16 km² de glace qui le recouvrait. À Reykjavik, Jérémy Richard pour France Inter.
Au moins 63 morts en Afghanistan et le bilan est encore provisoire. Plus de 180 personnes ont été blessées dans un attentat kamikaze en plein mariage. Ce n'est pas la première fois. L'attentat a été revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique. Sonia Ghezali à Kaboul.
Je cherche mon frère, il était à l'intérieur, crie un homme, désespéré, sa tenue de fête tachée de sang, devant la salle de mariage Shahr Dubai. La vidéo prise cette nuit, peu après l'explosion, circule largement sur les réseaux sociaux, tout comme les photos de cette salle de mariage transformée en scène d'horreur. Des tables, des chaises renversées dans des flaques de sang, des dizaines de corps sans vie étendus au sol, au milieu des débris. Il était plus de 22h30 quand un kamikaze s'est fait exploser au milieu des invités, dans la salle réservée aux hommes. À ce moment-ci, la fête battait son plein, le dîner était en train d'être servi. Les talibans nient toute implication. La minorité hazara est régulièrement prise pour cible par la branche afghane du groupe État islamique. Cet attentat intervient alors que talibans et américains semblent être proches d'un accord de paix. Une signature pourrait même avoir lieu dans les prochains jours, selon certaines sources gouvernementales. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Selon les chiffres de l'ONU, plus de 1500 civils auraient été tués ou blessés en Afghanistan rien qu'au mois de juillet dernier. Au Bangladesh, des milliers de personnes sans abri après l'incendie d'un bidonville de la capitale, Dhaka. Au moins 2000 habitations ont été détruites. Il n'y a pas de victimes. Les habitants du bidonville étaient partis célébrer en famille la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Ils se sont réfugiés dans les écoles du quartier. Peut-être une issue pour les migrants de l'Open Arms, le navire humanitaire espagnol bloqué devant Lampedusa depuis 2 semaines maintenant. L'Espagne propose ce matin officiellement de l'accueillir dans le port d'Algeciras. À Hong Kong, des dizaines de milliers de manifestants sous la pluie. C'est une nouvelle marée humaine qui défile dans les rues de l'ex-colonie britannique. Après 10 semaines de contestation d'un exécutif local jugé trop assujetti à Pékin, les organisateurs du Front civique des droits de l'homme avaient appelé à faire de cette journée une nouvelle démonstration de force. Valérie Crova, vous êtes à Hong Kong et c'est plutôt réussi.
Effectivement, et malgré la pluie torrentielle qui s'est abattue dès le début de la manifestation, mais qui n'a pas dissuadé la foule, la place Victoria s'est vite transformée en une mer de parapluies, une foule compacte qui s'est réunie dans le calme et dont une partie a pris depuis la direction du centre financier situé plus à l'ouest de Hong Kong, bravant ainsi l'interdiction de la police. Cette dernière n'avait pas autorisé de défiler, juste un rassemblement statique. Hong Kong libre, la démocratie maintenant, Hong Kong n'est pas la Chine. Les organisateurs du Front civique des droits de l'homme, à l'origine de ce rassemblement, ont scandé au micro des slogans repris par tous les participants, des participants qui ont demandé également le départ de la chef de l'exécutif, Carrie Lam, la fin des violences policières et la libération des manifestants qui ont été emprisonnés. Ce rendez-vous se voulait crucial pour la suite du mouvement. Les militants pro-démocratie qui ne lâchent rien veulent montrer à Pékin et à leurs dirigeants qu'ils bénéficient toujours d'un large soutien parmi la population depuis plus de 2 mois de protestations.
Valérie Crova à Hong Kong avec Jérémy Thuil. Toutes les images de cette manifestation sont à retrouver bien sûr sur franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Relocaliser la production de médicaments en Europe, c'est l'appel que lance dans le journal du dimanche un collectif de médecins hospitaliers, une vingtaine de médecins pour lesquels il serait parfaitement possible de remédier aux ruptures d'approvisionnement qui sont de plus en plus nombreuses. À Norenstein, ils ont des propositions à faire.
Eh bien d'abord, ils appellent l'État à obliger les labos à faire des stocks pour les médicaments les plus essentiels, ceux dont l'arrêt brutal peut conduire jusqu'à la mort. Actuellement, la production se fait à flux tendu, car pour les labos, faire du stock de sécurité, c'est immobiliser de la richesse et donc ce n'est pas compatible avec leurs objectifs de rentabilité. D'autant que les besoins mondiaux ont beaucoup augmenté alors que la production, elle, est restée assez stable. Les médicaments les plus touchés sont aussi ceux qui sont tombés dans le domaine public en France. Ils deviennent moins rentables pour les laboratoires et donc ils décident souvent d'en délocaliser la production en Chine ou en Inde. Aujourd'hui, 80% des principes actifs sont produits hors Union européenne, dans des usines pas toujours très modernes. Alors, rapatrier leur production en Europe serait aussi une solution.
Pour les signataires de cet appel, notamment le professeur Jean-Paul Vernant, hématologue à la Salpêtrière, une quarantaine de médicaments essentiels en cancérologie font l'objet de tensions importantes qui pourraient conduire à des décès prématurés. 2% de hausse pour la prochaine rentrée universitaire. La FAGE, premier syndicat étudiant, confirme les chiffres publiés cette semaine par ses collègues de l'UNEF en affichant une hausse du coût de la vie un peu moins importante, à 2%, mais trop élevée si l'on veut, dit-elle, démocratiser l'enseignement supérieur. Pour la FAGE comme pour l'UNEF, c'est l'augmentation des frais courants, notamment des loyers, qui est cause de cette situation. Orlane François, la présidente de la FAGE, au téléphone de Yann Gallic.
On observe deux postes qui augmentent très fortement, c'est au niveau du loyer, notamment en région, donc hors Île-de-France, on a une augmentation qui dépasse les 3%, donc c'est énorme. Et puis également au niveau des complémentaires santé, qui depuis plusieurs années maintenant ne cessent d'augmenter leurs tarifs. Et donc des jeunes qui décident soit de les souscrire et du coup de payer très cher, soit dans le pire des cas de ne pas les souscrire et de ne pas avoir recours aux soins quand ils en ont besoin. Donc ça entraîne des conséquences sur la santé physique, mentale des jeunes étudiants, sur la réussite scolaire, et ça les contraint, pour certains, à avoir recours au salariat. D'avoir un emploi en parallèle de leurs études qui vient souvent concurrencer sur le temps horaire des études et donc entraîne souvent un échec très fort ou bien même, dans le pire des cas, un abandon des études supérieures. Aujourd'hui, en France, on a un système éducatif qui est très inégalitaire de par l'orientation qui peut être faite, mais aussi de par les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur et avec des frais qui sont, pour certains, inimaginables aujourd'hui.
Et la FAGE qui pointe aussi la situation des nouveaux étudiants extra-européens qui vont devoir s'acquitter à la rentrée de frais d'inscription 15 à 16 fois supérieurs à ceux de leurs homologues européens, soit 2 770 € en licence, 3 770 € en master. En politique, les écologistes n'ont jamais été aussi légitimes pour gouverner, c'est Yannick Jadot qui le dit au JDD, en pensant aux priorités, en priorité bien sûr aux villes et villages de France, où des listes listes. Europe Écologie Les Verts devront être partout présentes lors des prochaines municipales, y compris à Paris où, dit-il, un maire écolo, ça aurait vraiment de la gueule. Quant à s'allier avec les partis de gauche pour la suite des événements, pas question pour Yannick Jadot de participer à une quelconque recomposition d'appareil. Le marché de Levallois-Perret en banlieue parisienne, complètement détruit par un incendie la nuit dernière, il n'y a pas de blessés. Les habitants de l'immeuble situé juste au-dessus ont été mis à l'abri dans une salle municipale. Aucune indication pour l'instant sur les causes de cet incendie. Et puis une cagnotte pour Simon Gauthier. Les amis du jeune randonneur disparu depuis 9 jours en Italie lancent un appel à l'aide pour financer les recherches, soutenir les bénévoles et la famille. Le Français de 27 ans parti seul du côté de Policastro au sud de Naples n'a pas pu être précisément localisé. Sur le site de la cagnotte onparticipe.fr ont déjà été recueillis 1500 euros. En sport, une éclaircie dans le bleu du 15 de France, vainqueur hier soir des Écossais 32-3. Au-delà du score, c'est la manière qui a séduit et fait renaître quelques espoirs. Après d'un mois maintenant de la Coupe du Monde, pour ce premier match de préparation, les joueurs ont montré une belle envie de jouer en marquant 5 essais sans en prendre aucun. Bref, quelques faiblesses encore sans doute, mais le début de quelque chose, Stéphane Garcia.
Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France capable de survivre et même de sortir gagnante de séquences de jeu de plus de 2 minutes. Sans doute l'effet du gros travail physique qui a été fait ces dernières semaines, ce qui a permis aux Bleus de saisir chaque occasion pour s'engouffrer dans la défense écossaise. Des Français inspirés, capables d'enchaîner les passes et les temps de jeu. 3 essais marqués en première mi-temps. Le premier d'Alivere Tiraka, l'ailier d'origine fidjienne naturalisé français. Derrière, des lancements précis avec à chaque fois au moins 2 solutions, 2 coéquipiers. Équipier en soutien pour le porteur du ballon. Et si la deuxième mi-temps était un peu plus laborieuse, c'est vrai, elle aura eu au moins le mérite de confirmer un gros changement en défense, point faible des Bleus lors du tournoi Destination, avec un rideau agressif, des ailiers sur les côtés qui coupent les extérieurs pour presser les adversaires et 2 joueurs derrière pour assurer la couverture. Des changements qui portent la marque de Fabien Galthié, lui qui est devenu l'adjoint de Jacques Brunel en mai dernier.
Pourvu que ça dure, comme le dit l'équipe en titre ce matin. Prochain match, la revanche, samedi prochain, à Murrayfield. En Ligue 1 de football, la chute de Lille à Amiens, 1-0 hier soir. La nouvelle déroute des Monégasques, battue 3-0 à Metz. La victoire de Nice à Nîmes, 2-1 de Toulouse sur Dijon, 1-0. Match nul entre Bordeaux et Montpellier, 1 partout. Ce soir, la suite, et notamment le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes. En tennis, la déception pour Richard Gasquet, battu cette nuit par Goffin en demi-finale du tournoi de Cincinnati. Dans l'autre demi-finale, c'est le numéro 1 mondial Djokovic qui a été sorti par Medvedev. Allez, ce n'est pas que dans les films, les bouteilles à la mer. Ça existe parfois en vrai, c'est même relativement fréquent. Nouvel exemple et nouvelle histoire venue en bouteille de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un photographe belfortin en vacances à Plozévette dans le Finistère qui l'a trouvé. Et c'est Maxime Bossonnet qui raconte.
Olivier Tisserand vient tous les ans en vacances avec sa famille à Plozévette. Photographe, il a l'habitude de se balader sur la plage, mais ce jour-là, il tombe sur un objet un peu particulier.
En se promenant sur la plage, j'étais parti faire des photos et j'ai trouvé cette bouteille.
Bon, une bouteille, un déchet comme les autres qu'on trouve malheureusement sur le sable, rien de très exceptionnel, sauf qu'à y regarder de plus près.
En fait, quand je me suis approché de la bouteille qui était par terre, en regardant de plus près, je me dis tiens, c'est une bouteille qui doit être assez âgée. Et je regardais de plus précisément, je voyais un gros scotch autour du goulot, je me dis tiens, c'est bizarre. Du scotch.
Il ouvre la bouteille et là, surprise, un message encore très bien conservé.
Dedans, il y avait un petit message, un papier qui était glissé à l'intérieur d'un cellophane. Il y avait un courrier qui avait un petit autocollant et ce courrier vient du Canada.
La bouteille a donc traversé tout l'océan Atlantique avant de s'échouer en Bretagne. En fait, c'est un chasseur de crabes qui a l'habitude de jeter ses petites bouteilles pour raconter un peu sa vie, son quotidien. Alors Olivier va essayer de retrouver ce messager anonyme.
Je voulais faire un petit jeu publier un message sur Facebook pour savoir ce qui serait possible de faire remonter ce message jusqu'au propriétaire, à savoir si ça irait plus rapide que la bouteille qui, elle, a mis plus de 1 an pour venir ici.
Alors avis aux auditeurs, si vous avez entendu parler d'un chasseur de crabes canadien lanceur de bouteilles à la mer, contactez Olivier Tisserand.
Voilà, et à propos de messages, un bon anniversaire pour terminer, bon anniversaire ce 18 août à Hugo Frey qui fête ses 90 ans et qui prépare un nouvel album pour 2020. Les secrets de sa longévité, il le dit au Parisien Dimanche, ni drogue, ni tabac, ni alcool, sinon quelques côtes du Rhône légers. Celui qui avait fait connaître Bob Dylan aux Français dit avoir encore plein de projets, musique, bouquins, peinture et sculpture. ICO, la météo, Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, prévoyez un ciel nuageux avec des averses par endroits, de l'Aquitaine au Limousin et jusque vers la région Grand Est. Attention aux orages qui vont se développer entre le centre-est et le nord-est. D'ailleurs, Météo France a placé 12 départements en vigilance orange. On prévoit localement d'importants cumuls de pluie, des chutes de grêle et des rafales de vent voisines de 100 km par heure. Dans les autres régions, votre après-midi sera plus calme sous un ciel partagé entre éclaircies parfois belles et cumulus inoffensifs. À noter la présence d'entrées maritimes très nuageuses du côté du Languedoc-Roussillon. Restera généreux du massif alpin à la Corse en passant par la région PACA. Demain, le ciel sera très nuageux des Pyrénées à l'Auvergne et jusque vers le nord des Alpes et la Franche-Comté. Partout ailleurs, les éclaircies seront prédominantes. Le plein soleil est attendu en Corse et du côté de la Côte d'Azur. Côté température, les maximales seront généralement inférieures aux moyennes de saison et comprises entre 19 et 24 degrés. Prévoyez 27 à 31 près de la Grande Bleue.